Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et en ce jour de Noël, de l'invention de Dieu à la modernité, quelle place pour la croyance? Nous sommes en duplex avec Thomas Romer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur du Collège de France, professeur titulaire de la chaire Milieu biblique et co-auteur avec Jacqueline Chaby de Dieu de la Bible, Dieu du Coran aux éditions du Seuil. Et puis dans ce studio, je suis en compagnie de Jean-Luc Marion. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Marion, vous êtes philosophe, phénoménologue et auteur notamment de d'ailleurs La Révélation, contribution à une histoire critique et à un concept phénoménal de révélation aux éditions Grasset. Jean-Luc Marion, votre regard sur Noël.
Noël. Ben, Noël, c'est le moment de l'année où s'ouvre l'histoire. Je veux dire qu'elle s'ouvre parce que c'est la fin de l'année ou le début de l'année suivante, mais au sens où, où on ouvre la porte, éventuellement en la défonçant, et où on ouvre une outre avec un glaive, comme dit l'Écriture, un glaive à deux tranchants. C'est-à-dire que notre expérience, c'est l'expérience du quotidien, au jour le jour. Donc pour nous, d'une certaine manière, l'histoire est close. Elle se prolonge naturellement, mais finalement, c'est toujours la même. Et Noël, la signification de Noël, alors je pense que c'était déjà un peu vrai avant le christianisme. Mais avec le christianisme, Noël, c'est le moment de l'irruption de ce que j'appelle l'ailleurs, de l'irruption absolue de l'ailleurs, qui d'un seul coup nous fait envisager cette hypothèse folle et en fait très rationnelle. Peut-être que l'histoire, d'une certaine manière, est un éternel retour, ou du moins le masque d'autre chose. Et c'est ce rapport entre le visible et l'invisible qui taraude, en fait, la fête de Noël. C'est très intéressant. En fait, on se pose la question, en période de Covid, etc., encore plus, on se pose la question de se dire, est-ce que le monde dans lequel nous sommes, non seulement est le seul, mais est-ce qu'il est vraiment réel?
Alors,
je crois que Noël, c'est ça.
En cette période de Covid, Jean-Luc Marion, votre regard là aussi sur la manière dont ces fêtes ont été vécues, ce que nous sommes contraints à faire.
Ben, écoutez, le Covid n'est pas d'abord une crise sanitaire. C'est une crise politique. Je veux dire, la maladie elle-même n'est pas exceptionnelle, c'est pas la peste noire. Les populations ne sont pas décimées d'un tiers. C'est pas le choléra, comme au XIXe siècle, à Marseille. Donc, ce qui est inquiétant, c'est les effets induits, donc les décisions politiques, les conséquences économiques naturellement, du Covid. Tout se passe comme si le Covid était un révélateur. Je prends le mot à dessein. Un révélateur de ce dont on ne parle pas habituellement. Alors, l'une des conséquences les plus incroyables, on est à un an de Covid. Qu'est-ce qu'on a lâché comme liberté individuelle? Pour la bonne cause, peut-être. On a lâché ces libertés individuelles, on n'a pas protesté. Même les Français qui sont supposés râler n'ont pas protesté. Et c'est d'autant plus étonnant que il n'y a pas péril dans la demeure physiquement. Bon, il y a des morts, mais enfin, je veux dire, ça n'est pas une hécatombe. Et d'autre part, ces contraintes nous ont été imposées, encore une fois, peut-être le faut-il, ce n'est pas mon problème, j'essaie de décrire, nous ont été imposées par un pouvoir politique, c'est son métier, mais un pouvoir politique faible. Faible. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin de sortir des policiers, il n'y a pas eu besoin de... pire, c'était donné par un pouvoir politique qui n'était même pas vraiment politique, puisqu'il n'y a pas eu de vote, etc. Par un pouvoir politique qui était réduit à l'administration, et une administration qui n'a cessé de se contredire, donc sans autorité. Et alors, pour moi, l'événement profond, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Parce que le Covid se passe dans nos têtes.
Thomas Romer, vous qui êtes un grand lecteur et un grand exégète de la Bible, il y a beaucoup d'épidémies dans ce livre, dans ces livres. Que dit la Bible sur ces épidémies ?
Ben, on peut déjà mentionner les plaies d'Égypte qui sont à la fois considérées comme des punitions, mais aussi comme un moment où se passe quelque chose pour le peuple d'Israël qui, finalement, après ces plaies, peut sortir du pays d'Égypte. Donc, il y a toute une réflexion dans la Bible. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des oracles de jugement où on envoie toutes sortes de plaies contre ceux qui veulent pas écouter les commandements. Donc, les épées les plaies souvent sont en effet considérées comme étant des punitions divines ou des sanctions divines et qui invitent à un changement de regard. Donc peut-être à ce niveau-là, on peut faire un petit parallèle parce qu'il me semble ce qui se passe actuellement, c'est quand même aussi, bon, peu importe comment on comprend le comportement des gouvernements, mais je pense au niveau de la population, il y a quand même une interrogation sur notre manière de vivre, sur ce qui est, bah, disons, on va pas reprendre le mot essentiel, mais ce qui est en effet important pour nos vies. Et je pense là, on rejoint un peu les grandes interrogations de l'humanité depuis qu'il y a eu des épidémies qui sont attestées depuis le 3e millénaire avant l'ère chrétienne, en fait.
Mais alors, que font les hommes dans la Bible pour mériter ces épidémies, Thomas Romer ?
Alors, bon, le pharaon il est puni parce qu'il veut pas laisser partir les Hébreux d'Égypte. Les autres épidémies qui sont annoncées, qui se réalisent pas toujours forcément, sont envoyées parce que les Israélites ou donc ceux qui sont les destinataires des commandements divins, bah ils les suivent pas. Et ils oppriment le pauvre, ils font ce qui est mal aux yeux de Yahvé, comme on dit dans les textes bibliques. Donc il y a toujours une idée, en fait, de sanctions qui derrière ces plaies ou ces pandémies.
Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Marion, vous qui êtes philosophe, mais qui avez aussi une grande lecture de la Bible ?
Ben moi, je pense que, comme aujourd'hui, comme dans la Bible, quand intervient un phénomène qui nous affecte, en mal, mais parfois aussi en bien, et que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, ce qui est en cause, c'est justement notre façon de comprendre. C'est-à-dire, l'inquiétude, elle vient du fait que, évidemment, c'est un danger, il faut faire quelque chose, et on supplie ou on se révolte, enfin, peu importe. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on se dit, si cette chose que nous considérons comme impossible et irrationnelle s'est produite, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ? D'où ça vient ? Il y a donc quelque chose dans la réalité, parce que rien n'est plus réel qu'une épidémie, hein, puisqu'elle déréalise, d'où vient que quelque chose que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire que dans le langage commun, on appelle l'impossible. L'impossible, c'est ce qui ne peut pas être prévu. Il ne peut pas être prévu parce qu'il est contradictoire dans sa définition, il n'a pas de cause. Bon, s'il n'a pas de cause, il n'est pas intelligible, il ne devrait pas se produire. Or, il se produit quand même. Donc, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement ma santé, c'est pas seulement le microbe, puisqu'il y a des épidémies avant le microbe, si je puis dire, mais c'est l'expérience que la réalité m'échappe, autrement dit, qu'elle est beaucoup plus grande que ce que je pouvais envisager. C'est l'expérience de l'impossible. Et l'expérience de l'impossible, c'est justement ce que la civilisation moderne a décidé d'éliminer de son spectre d'analyse. Ne devrait arriver dans une société bien organisée, c'est-à-dire techniquement organisé, que ce qui est possible, c'est-à-dire concevable à l'avance, prévisible, productible, reproductible, anticipable, être en capacité de. Et l'épidémie, c'est un cas majeur où il n'y a pas de cause, ça n'était pas prévu parce que ça n'est pas possible, puisque les virus s'inventent, comme des grands, sans lui demander la permission. Et donc, ils sont l'irruption de ce que nous n'avions pas pensé. Et je pense que c'est ça, la perturbation profonde. Et c'est le rapport du possible et de l'impossible. En phénoménologie, on dit rapport du visible à l'invisible. Et on s'aperçoit que l'invisible, c'est pas du tout ce qu'on ne voit pas. L'invisible, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Et comprendre le visible, c'est y ajouter à chaque instant une nouvelle dose d'invisible. C'est comme ça qu'on progresse. Mais
la perturbation mentale, psychologique de l'épidémie, de la pandémie, comme on dit, c'est précisément cela. C'est pas médical.
Mais alors, Thomas Römer, parce que on voit bien que finalement, même ceux qui n'ont pas lu la Bible ont tendance, ont parfois une propension, par exemple, à lire cet événement, la pandémie, du point de vue moral, en cherchant les fautes commises, même si ce ne sont pas des fautes métaphysiques. Donc, il y a quand même un prolongement du repère ou du schéma biblique.
Ben, je ne sais pas si c'est seulement le schéma biblique, mais c'est certainement un schéma assez universel. C'est comme disent Jean-Luc Marion, on ne sait pas trop pourquoi, mais on cherche quand même de comprendre pourquoi. Donc il y a eu toutes sortes de discours que c'est une certaine manière aussi la vengeance de la nature qu'on a trop maltraité, puisqu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y a beaucoup moins d'émissions de CO2. Donc c'est clair que ça nous interroge quand même beaucoup sur notre manière de vivre. Et c'est vrai, si je prends ma génération, moi, je suis né en 55, on est fait élevé dans cette idée que ça peut aller que pour le mieux. Donc d'avoir tout d'un coup cette irruption, c'est vrai que ça interroge beaucoup de monde, et même des gens qui n'ont pas vraiment des croyances chrétiennes, juives ou autres. Mais il y a toujours, je pense quand même, ce besoin de comprendre, de chercher une origine, même si peut-être cette origine n'est pas très facile à trouver.
Mais alors prolongeons, Thomas Römer, qu'est-ce qui permet aux hommes de se guérir des épidémies dans la Bible?
Alors, dans la Bible, c'est relativement simple. Dans la Bible, il faut en effet changer d'attitude par rapport à son style de vie et sa manière, justement, de considérer les autres. Donc, si le pharaon avait laissé partir les Hébreux, il n'aura peut-être pas eu tous les plaies sur la tête et le peuple d'Égypte en même temps. Dans les discours des prophètes, il est toujours dit, en effet, changez votre regard, changez votre attitude, changez votre manière de vivre. Donc, il y a toujours une sorte d'appel, en fait, pas seulement d'introspection, mais en fait, réflexion sur la manière de se comporter en société. Et je pense, on l'entend un peu aussi aujourd'hui, évidemment pas avec les mêmes paroles, avec les mêmes concepts, mais quelque part, je pense, ce qui nous arrive est quand même quelque chose qui nous interroge profondément sur notre société, sur aussi ce qui est la liberté, ce qui est l'indépendance, mais aussi ce qui est la responsabilité. Donc, je pense qu'il y a un certain prolongement qu'on peut faire sans rester évidemment dans une perspective de sanction divine ou de punition.
Jean-Luc Marion, qu'en pensez-vous? Comment est-il possible de guérir d'une pandémie?
D'abord, on ne guérit pas toujours parce qu'on se guérit, parce qu'on procède à des manipulations techniques. En un sens, d'abord l'organisme a tendance à se guérir tout seul quand il peut, et puis surtout la guérison, c'est quelque chose, quand on en bénéficie, comme d'ailleurs quand on n'en bénéficie pas, qui semble venir d'ailleurs. Il y a toujours un côté miraculeux. Ça part comme c'est arrivé, sans qu'on sache pourquoi. Encore une fois, moi, je suis ce qui vient d'être dit par Thomas Römer est parfaitement exact. L'intérêt de ces plaies d'Égypte, c'est pas de savoir, en un sens, de quoi elles sont la punition. C'est de se dire que c'est une expérience de non-maîtrise. Finalement, quelle est la faute de Pharaon? Qu'il se prend pour Pharaon. Il n'y a pas d'idée. Pour lui, il est évident que tout le monde lui obéit. Et alors, les plaies d'Égypte sont une manière de lui faire comprendre, et la tête est dure, hein, les dynasties sont longues, que il n'est pas pharaon. Et c'est pourquoi c'est une crise politique. Hein. C'est parce que ça met en cause le système tel qu'il est, et surtout la représentation que nous en avons, la clôture du monde. Hein. C'est-à-dire c'est le Léviathan. Léviathan, pour Hobbes, c'est le dieu pluriel. Hein. C'est l'ensemble des individus finis qui passent un pacte et qui font une espèce de surhomme. Léviathan, qui est un dieu mortel. Et justement, ce dieu mortel, le président de la République, le président des États-Unis, celui qui tient la Constitution et par la Constitution, celui, le lieu du pacte, c'est celui-là qui est dépossédé, comme Pharaon. Et c'est cette expérience qui fait que la pandémie, elle est politique.
Et c'est ça qui me fascine. Et alors, on parlait aussi de mauvaise conscience vis-à-vis de la nature, parce que cette pandémie, elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive au moment où l'écologie commence à devenir un truc sérieux, c'est-à-dire pas un mouvement politique, mais une prise de conscience générale qu'on ne peut pas continuer comme on ne pourra pas. Non, non seulement on ne doit pas, mais on ne pourra pas continuer comme on a fait depuis 2 ou 3 siècles. Donc, là aussi, il y a une crise, il y a un tournant. Vous mettez les deux ensemble, et vous avez une prise de conscience irrésistible à laquelle les politiques sont obligés d'obéir parce qu'ils sont destitués de leur pouvoir supposé complet et dernier. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc c'est une crise politique, donc une crise morale. Et évidemment, le discours religieux apparaît dans sa rationalité. Car le problème des religions, comme on dit, bon, dans mon cas du christianisme, c'est que, en fait, en période de crise, le discours religieux est au moins aussi rationnel que les autres.
Mais alors, Thomas Romer, dans la Bible, justement, le discours religieux, il ne se pense pas nécessairement comme tel. C'est-à-dire que c'est un récit qui n'a pas nécessairement une vocation uniquement religieuse ou métaphysique. Il raconte des événements et il voit s'affronter différents pouvoirs. Le pouvoir de Pharaon, le pouvoir de Dieu. Et ces pouvoirs-là sont en concurrence et permettent de lire un phénomène tel qu'une punition divine comme la pandémie.
Tout à fait. Donc, je pense qu'il est important, en effet, de rappeler que pour les auteurs bibliques, si on peut les appeler comme ça, puisqu'on ne les connaît pas très bien, mais pour ces gens qui nous ont laissé ces textes, il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Donc, la laïcité n'existe pas encore. Donc, c'est en effet un discours où le religieux a autant de fonctions que le politique, que le social. Et il est clair que pour eux, on n'est pas forcément de ce qu'on va appeler plus tard la métaphysique. C'est simplement une manière de comprendre ce qui arrive. Par exemple, on écrit aussi toute l'histoire de la royauté d'Israël, depuis les premiers rois jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem et l'exil à Babylone. Dans cette perspective, en fait, pour expliquer pourquoi c'est arrivé. En fait, bon, ça, c'est pas forcément une pandémie, mais on est de nouveau, en fait, dans le souci de comprendre ce qui est arrivé. Et de nouveau, on va proposer des grilles de lecture en disant si les rois et le peuple, et bien surtout les rois qui avaient la responsabilité, avaient eu un comportement différent, ces choses-là seraient peut-être pas arrivées. Mais ce qu'on peut observer dans les textes bibliques, c'est toujours a posteriori qu'on va écrire ces choses pour interpréter l'histoire, mais du coup aussi pour interpréter le présent.
Essayer de comprendre effectivement pourquoi les épreuves sont envoyées aux hommes. On va continuer d'évoquer la Bible, mais cette fois-ci la croyance et puis la révélation, deux notions qui vous sont chères. Thomas Romer, on peut retrouver votre Dieu de la Bible, Dieu du Coran. C'est coécrit avec Jacqueline Chabis, c'est aux éditions du Seuil. Jean-Luc Marion, d'ailleurs la révélation, contribution à une histoire critique et à un concept phénoménal de révélation, c'est aux éditions Grasset. On vous retrouve tous les deux dans une vingtaine de minutes pour évoquer en ce jour de Noël la manière dont on peut percevoir le divin, la révélation, et puis comment le christianisme aujourd'hui raconte le monde et déploie sa croyance. En attendant, il est 8h sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et en ce jour de Noël, nous remontons aux origines de la religion catholique avec deux grands penseurs. Tout d'abord Jean-Luc Marion, philosophe, phénoménologue, professeur émérite à l'université de Chicago et à l'université de Paris-Sorbonne. Vous publiez d'ailleurs la révélation aux éditions Grasset. Puis nous sommes en duplex avec Thomas Romer, administrateur du Collège de France, professeur titulaire de la chaire milieu biblique. Vous publiez avec Jacqueline Chabis, Dieu de la Bible, Dieu du Coran aux éditions du Seuil. Thomas Romer, que présente-t-on, comment est présenté le Christ dans la Bible? Que sait-on, vous qui avez travaillé en matière d'exégèse sur les textes, mais aussi en archéologie, sur la personne du Christ?
Alors, on a les évangiles, évidemment, qui nous racontent la vie de Jésus, mais c'est vrai qu'en dehors de la Bible, Jésus semble d'abord avoir été une personne qui n'a pas trop touché les contemporains, parce qu'on a très peu d'attestations, en fait. Le Christ, comme vous dites, devient important au moment où le christianisme se met en place, devient important au 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Mais ce qui est très intéressant, si on regarde les premiers textes les plus anciens que nous avons dans le Nouveau Testament, ce sont les épîtres donc de Paul, où en effet on apprend très peu de choses. On apprend simplement qu'il est mort et ressuscité. Donc c'est en effet cette affirmation de la résurrection qui semble être fondamentale. Et c'est seulement après, avec les premiers évangiles, Marc, aux alentours de 70 de l'ère chrétienne, qu'on commence en effet à raconter la vie. Et là, de nouveau, il faut préciser que tout au début, la nativité, l'origine, tout ça intéresse pas. L'évangile de Marc commence tout de suite par la prédication en fait de Jésus de Nazareth. Donc il faut encore attendre 20 ans avec Luc et Matthieu pour avoir des récits sur la naissance, l'origine, et c'est là qu'on va trouver les origines de ce que va devenir plus tard Noël.
Le regard du philosophe Jean-Luc Marion sur Jésus.
Ben, je ne sais pas si les philosophes sont bien placés pour parler de Jésus. Alors, il y a un paradoxe. C'est que la philosophie, elle s'occupe de ce qui est. Et quand elle parle de Jésus, elle est toujours un peu à côté d'elle-même. Et puis en même temps, la philosophie, c'est étonnant aussi, la philosophie occidentale du moins, a été et reste profondément marquée par la question de Jésus comme le Christ, par la question du Christ, c'est-à-dire par non seulement la personne historique de Jésus, mais ce qu'il est au sens le plus radical. Et cette tension est évidemment décisive. Finalement, puisque mon collègue Romer parlait d'histoire, de connaissance historique de Jésus, on peut prendre la question autrement. Bon, que Jésus était, pendant, si je puis dire, un premier siècle tout à fait marginalisé, qu'on n'ait que des témoignages indirects ou très ténus chez Tacite, Suétone et quelques autres, ou Pline, mais ceci n'est pas surprenant, puisque ça, tout s'est passé aux marges de l'Empire et de la société. Ce qui est étonnant, c'est que cette figure soit restée cruciale jusqu'à nos jours. C'est ça la chose étonnante. Je dirais, pourquoi privilégier Jésus-Christ par rapport à d'autres religions, etc. Parce que ça dure. Parce que le temps n'a pas érodé. Le temps a plutôt renforcé les questions. L'histoire de l'exégèse, d'ailleurs, des exégèses, il y a plusieurs périodes, est intéressante parce que plus on avance, et Dieu sait si on avance, plus on entre dans le détail du texte, plus le texte devient étrange. Il devient étrange parce que il faut sans cesse accepter ce que le texte dit ou ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que le texte ne devient jamais compréhensible. Alors, vous me direz...
Donnez-nous des exemples.
Ben, par exemple, quand le Christ parle en parabole, on n'a jamais l'explication du sens de la parabole. La parabole, vous savez, c'est un genre littéraire qui a peut-être été inventé par le Christ. Et après lui, on n'en a plus fait. On a fait des fables. Avant, on en faisait des fables, mais pas des paraboles. Le problème de la parabole, c'est que on prend une chose tout à fait banale. Un verre d'eau, n'importe quoi. Et sur cette chose extrêmement banale que tout le monde comprend, le Christ commence à poser quelques questions, un peu comme Socrate. Et souvent, il retourne une question qu'on lui pose. Et en 5 répliques, la situation est inversée, c'est-à-dire c'est celui qui a posé la question, l'auditeur, qui en a se demander ce que le Christ veut bien vouloir dire et qu'est-ce que lui a à répondre et à ne pas le savoir. C'est-à-dire que la parabole est là pour but de forcer l'auditeur à prendre une décision sur le sens de la parabole. Et donc, la révélation, à ce moment-là, c'est le fait que c'est moi qui suis le dépositaire du oui ou du non. Et alors, On peut dire que toute l'histoire de l'exégèse, c'est comme ça. C'est-à-dire tous les exégètes, surtout les exégètes libéraux, critiques, commencent avec une idée extrêmement simple, c'est pas vrai. Et puis, plus on avance, plus on voit que la question se pose, non pas à Jésus, mais au lecteur. Et c'est ce phénomène qui, moi, me fascine. Et c'est vrai aussi pour les philosophes. Que ce soit Heidegger ou Wittgenstein, que ce soit Nietzsche ou Freud ou Husserl, personne n'y coupe. Il y a toujours un moment où il faut que le gars se décide sur le sujet. Et ça, c'est assez fascinant.
Thomas Romer, justement, la manière dont Jésus s'exprime, ce qu'expliquait Jean-Luc Marion, les paraboles, est-ce que finalement c'était un rabbin qui est devenu plus célèbre que les autres rabbins de l'époque, ou bien à l'époque était-il déjà considéré comme un homme à part?
Je pense qu'on peut dire les deux choses. Aujourd'hui, il y a tout un courant, surtout chez les chercheurs juifs, qui insistent beaucoup sur Jésus le juif, Jésus le rabbin, et c'est vrai qu'on ne le voit pas fort, en effet, discuter avec les pharisiens, avec un peu les mêmes méthodes qu'on retrouve après dans la Mishnah ou dans le Talmud. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a aussi parfois des critiques très très fortes à l'égard des pharisiens par rapport à leur manière d'interpréter la Torah, loi.
Il faut expliquer, donc, Thomas Romer, qui étaient les pharisiens, expliquer comment le judaïsme de l'époque était éclaté. Oui.
Alors, il y avait surtout deux grands courants, les Sadducéens, qui sont en quelque sorte les prêtres, qui vont disparaître après la destruction du temple, et les pharisiens, qui sont un peu les chefs spirituels, disons, on peut pas dire laïcs, mais qui sont pas en fait des prêtres, mais qui sont en fait les guides du peuple, et qui ont en fait un peu, ou qui s'arrogent le monopole d'interpréter la loi.
On peut dire le pouvoir temporel, peut-être.
D'une certaine manière, oui, on pourrait dire ça. Il y a encore les Esséniens, si on prend Flavius Joseph, qui seraient un peu, qu'on peut comparer peut-être avec des gens qui sont un peu en marge, et qui sont critiques vis-à-vis à la fois des pharisiens et des Sadduciens. Parfois, on a voulu aussi rapprocher Jésus des Esséniens, qu'on peut peut-être identifier avec la communauté qui nous a laissé des textes à Qumran, donc sur la mer morte.
Qumran, là aussi, il faut rappeler, Thomas Romer, qu'est-ce que c'est Qumran?
Alors, Qumran, c'est un site sur pas trop loin de la mer morte. On a trouvé on a trouvé évidemment des vestiges archéologiques, en effet, certains disent un monastère, certainement pas, mais en fait, des habitations où il y a des gens peut-être qui se sont, en effet, réfugiés de Jérusalem à cet endroit qui, quand même, si on le visite, assez éloigné. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'on a trouvé dans les grottes aux alentours des manuscrits, d'abord des manuscrits bibliques, ce qui était très très important pour les gens qui s'intéressent à la transmission du texte biblique, mais aussi des textes de la communauté, par exemple le rouleau de la guerre, où on attend en effet une sorte de guerre finale entre le bien et le mal. Et ça, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on a beaucoup de paroles de Jésus. On a l'impression aussi, il s'inscrit un peu dans ce mouvement un peu eschatologique en disant les temps anciens sont en train de se terminer. Il va y avoir un grand bouleversement. Il va y avoir des phénomènes qui montrent que la création actuelle est en train de disparaître. Et il faut en effet se préparer à l'avènement de ce que Jésus a appelé le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, dont il apparemment pensait d'être le prédicateur.
Mais alors, Jean-Luc Marion, ce qui est intéressant en tant que philosophe, en tant que croyant peut-être aussi, comment combinez-vous à la fois une approche qui pourrait être une approche rationnelle, une approche de la foi également pour, eh bien, non seulement la question de la révélation, mais aussi la question de la personne de Jésus-Christ dont on voit comment elle est présentée, comment les différents textes aujourd'hui, puisque la critique biblique permet cela, permet de voir quelle est la manière dont il a été édifié historiquement.
Bon, alors écoutez, on va séparer les deux questions. La première question, c'est comment, en gros, peut-on être philosophe, donc rationaliste par métier, et croyant? En déconstruisant les deux termes de l'opposition. Moi, je suis d'abord historien de la philosophie. Et ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du concept même de raison et de rationalité. Or, quand on fait cela, moi je suis d'abord un spécialiste de Descartes, du Moyen-Âge tardif et de toute la période qui va jusqu'à Kant. À ce moment-là, on comprend que le modèle de la rationalité rationaliste, si je puis dire, telle qu'elle s'oppose à la croyance, etc., est un modèle moderne. C'est un modèle moderne qui correspond d'ailleurs historiquement à ce qu'on a appelé à ce moment-là seulement la métaphysique. C'est pas éternel la métaphysique, ça a 2-3 siècles, pas plus. Et c'est ce modèle de la rationalité qui a été déconstruit par le XXe siècle. Depuis Nietzsche, en gros. C'est-à-dire que nous avons découvert que la raison est beaucoup plus que la connaissance et la constitution des objets. Que la constitution des objets, c'est un exercice de la raison, mais ça ne couvre qu'une partie de la réalité. Et qu'il y a une partie de la réalité qui n'est pas objectivable. Non pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'elle est irrationnelle, mais parce qu'on ne peut pas la produire.
Mais ça veut dire, pardonnez-moi Jean-Luc Marion, que vous diriez qu'il n'y a pas de métaphysique avant, je ne sais pas, le 15e siècle.
Avant Duns Scot, 14e siècle. On est en train d'éditer.
Duns Scot,
qui est un théologien scolastique, qui écrit au 14e siècle, le premier texte vraiment métaphysique, qui s'appelle Les questions métaphysiques, qu'on est d'ailleurs en train de publier en bilingue au PUF, qui est un texte fondamental.
Qu'est-ce qu'il y a avant la métaphysique?
Avant, justement, c'est un point de discussion, il y a la philosophie comme recherche de la sagesse, il y a la philosophie comme avec une intention morale, la philosophie, depuis Aristote, depuis Platon, elle vise quand même une forme de vertu, de bonheur, voire d'immortalité par la contemplation. Elle n'est pas d'abord une connaissance des objets. Mais la constitution des objets, c'est vraiment un projet moderne. Il commence avec la métaphysique d'un Scot, et il se termine avec la fin de la métaphysique. On va dire Nietzsche, je pense, un peu simplifié. Alors, il y a d'un côté, la constitution des objets, ça nous donne le monde de la technique. Notre monde, le monde apparent. Et le monde, oui, apparu. Et puis, vous avez le reste. Alors, le reste, moi, je vous propose de l'appeler l'événement. Il y a les objets d'un côté, l'événement de l'autre. L'événement, c'est ce qui ne peut pas se prévoir, ce qui ne peut pas se produire, ce qui ne peut pas se reproduire à l'identique, ce qui reste impensable, même quand il est devant nous. C'est ça, le problème. L'objet technique, il est devant nous parce qu'il était pensable avant. L'objet, l'événement, il est devant nous tout en restant impensable. Alors, comment peut-on penser l'événement? La pandémie est un événement. C'est là qu'intervient une autre forme de rationalité. C'est pas les religions, comme on dit, c'est pas l'irrationnel. C'est une autre forme de rationalité, partagée d'ailleurs par la littérature, la poésie et beaucoup d'autres formes d'expression. C'est la connaissance de ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est souvent ce qui est plus fort que nous. Donc en un sens, c'est beaucoup plus important que les objets. C'est comme ça que je réconcilie ce qui ne devrait jamais être séparé.
Mais alors, ce qui est passionnant, c'est la confrontation de vos deux regards, votre regard de philosophe Jean-Luc Marion, et puis votre regard, Thomas Römer, de lecteur de la Bible, d'historien de la Bible, on peut dire les choses ainsi. Vous évoquiez les manuscrits de Qumran, donc qui ont été trouvés et qui permettent d'avoir un regard sur le judaïsme contemporain de la personne du Christ. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent permettre de rapprocher les paroles du Christ, les paraboles du Christ également, avec la manière dont le judaïsme de l'époque se pratiquait, était conçu, et donc on peut assez facilement voir, enfin facilement est probablement un terme en trop, mais on peut voir en tout cas dans quelle mesure la personne du Christ s'insère dans ce contexte culturel du judaïsme des débuts de l'ère commune.
Ah oui, alors ça fait aucun doute que Jésus se considérait comme juif, que le Jésus historique n'a jamais en effet pensé de fonder une autre religion. Donc toutes les discussions qu'il a quand il les dit, par exemple Moïse vous a dit mais moi je vous dis, ce qu'on interprète souvent comme une sorte d'opposition au judaïsme, en fait c'est simplement une attitude rabbinique qui dit la loi écrite dit ça, mais il faut le comprendre de cette manière. C'est exactement ce que font les pharisiens, plus tard les rabbins, puisque si on ouvre le Talmud, qui est une sorte de collection des discussions rabbiniques, on est frappé quand même des nombreux parallèles qu'on peut faire avec certaines paroles qu'on peut attribuer au Jésus historique. Donc c'est clair que sur le plan historique, Jésus n'a jamais voulu fonder une autre religion. Je pense que la rupture est venue plus tard avec Paul, peut-être.
Alors, il ne voulait pas fonder une autre religion, mais il appartenait, comme vous l'avez dit, et peut-être faudrait-il le souligner, à une certaine conception du judaïsme de l'époque.
Tout à fait. Alors, il faisait partie de ce qu'on peut appeler le courant apocalyptique, c'est-à-dire le courant qui pensait que les temps sous occupation romaine, où il y avait beaucoup de tensions aussi, des pauvretés aussi dans la population, que tous ces grandes crises, donc je pense qu'il y avait en effet une crise où elle était vécue, la situation était vécue comme une crise, que cette crise va en effet mener vers un grand effondrement. Et si vous lisez un certain nombre de textes sur justement tous les signes qui vont se produire, des tremblements de terre, des étoiles qui vont tomber. Donc c'est toujours cette idée que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est près de venir, et donc il faut en effet avoir une certaine attitude pour être prêt à ce grand avènement.
Mais alors, justement, Jean-Luc Marion, vous qui avez écrit d'ailleurs la Révélation, cette révélation du Christ au travers donc d'une tradition juive qui a à l'époque quelques siècles, probablement un millénaire et demi, comment la concevez-vous et comment s'inscrit-elle pour vous ?
Je suis ravi de parler en parallèle avec Thomas Römer, que j'ai bien lu quand j'étudiais ces questions. Évidemment, il a raison d'insister sur le fait que le Christ, vous savez, les nazis voulaient dire que le Christ avait été mis à mort par les juifs parce qu'il n'était pas juif, il était
tout
galiléen.
Fait, bon.
Alors ça, maintenant, on sait bien que non seulement c'est absurde, mais c'est un mensonge, mais c'est absurde. Il est profondément juif. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il n'est réductible à aucune des subdivisions du judaïsme contemporain. Il n'est pas pharisien, mais il discute avec les pharisiens et il pratique le culte de la synagogue à Nazareth, c'est-à-dire c'est les pharisiens qui avaient fait des synagogues, si je puis dire, pour faire des missions en dehors du temple de Jérusalem, pour qu'il y ait un culte local. Donc le Christ est pharisien, il a été éduqué sûrement par les pharisiens, sa connaissance de la Bible est pharisienne, il va à la synagogue, etc. Le Christ connaît les Sadducéens. Certains de ses disciples sont liés au temple. Il va au temple, il connaît les Sadducéens, il discute avec eux, il est en désaccord avec eux. Les Esséniens, on a longtemps cru que le Christ était un Essénien, bon, c'est une thèse maintenant abandonnée, mais il y a un rapport avec les Esséniens et, disons, ce mouvement de, sinon monastique, du moins d'espèce de béguinage. De la même manière, les gens les disciples de Jean-Baptiste. Donc, il connaît tous ces gens-là. Puis, il connaît les Romains. Il connaît aussi les Syriens, la Décapole, les païens qui ne sont pas romains, qui sont. Donc, il est dans tous les milieux. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de voir les Samaritains, de voir sa pédagogie quand il rencontre quelqu'un. Quand il rencontre les Samaritains, il les retourne, si je puis dire, d'une manière qui est très différente de la façon dont il discute avec des pharisiens. Et donc, à chaque fois, il prend le problème de l'interlocuteur et il le retourne. Alors, c'est ce que je disais à propos des paraboles. C'est-à-dire que plus nous voyons comment le Christ est enraciné dans l'histoire, et dans l'histoire juive, évidemment, moins on comprend qu'il est réductible à l'un des groupes ou une des traditions, et qu'il est toujours dans la position de celui qui fait éclater le noyau de l'atome. Et on peut dire que, on dit après la mort et la résurrection du Christ, c'est quand même un éclatement du noyau de l'atome énorme de dire ça. On ne dit que ça au début, mais enfin, c'est quand même ça la seule chose importante. Après, dans l'histoire, chaque fois que le christianisme rencontre une autre culture, le même phénomène de réaction atomique se produit.
Ça s'est produit avec le monde grec, ça s'est produit avec le monde médiéval, ça s'est produit au XVIIe, XVIIIe siècle, et ça se produit encore maintenant.
Mais alors, ça c'est très intéressant ce que vient de dire Jean-Luc Marion, Thomas Romer, parce qu'il y a en quelque sorte une personnalité diffractée du Christ qui n'est pas réductible à une seule conception du judaïsme de l'époque. Alors, par exemple, il y a une vraie question autour de son rapport aux femmes et de son rapport aux lois de pureté qui sont très importantes dans le judaïsme de l'époque et d'ailleurs encore dans le judaïsme contemporain. Et le Christ ne suit pas ces lois de pureté.
Non, il ne les suit pas, il les critique, mais toujours en fait en se référant à la loi, en disant que vous avez mal interprété la loi avec vos lois de pureté. En même temps, comme le dit Jean-Luc Marion, lorsqu'il guérit les lépreux, il leur dit « allez vous montrer aux prêtres et faites les rituels qu'il faut faire au moment de la purification ». Donc on a en effet quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire en fait ce qu'il critique surtout, c'est un certain nombre de rituels qui, selon lui, sont en effet déconnectés du sens même de la Torah, de la loi. En ce qui concerne les femmes, ça c'est très intéressant aussi. Il semble que, si on se met sur un plan historique, parmi ses disciples, il y avait plus de femmes que les évangiles veulent le faire croire. Et puis, dans les lettres de Paul, apparemment, il y avait des femmes qu'on a masculinisées après, lorsque l'Église est devenue patriarcale. Donc, je pense qu'il y avait une grande ouverture, en effet, aux femmes. Et on va aussi qu'apparemment il était un peu sponsorisé par certaines femmes. Donc quand on regarde l'histoire de la découverte du tombeau vide, c'est pas par hasard que c'est des femmes en effet qui vont le découvrir. Donc je pense là il y a quand même un souvenir qu'il y a une intégration en effet des femmes qui étaient atypiques à l'époque.
Alors, est-ce que ça rejoint la distinction, Jean-Luc Marion, que vous feriez entre Eros et Agapé, entre deux formes d'amour, un amour érotique et puis un amour agapé, on pourrait traduire ça peut-être par l'amitié ?
La charité plutôt. Bah justement, je refuse de faire la différence. J'ai insisté dans un livre antérieur, je reprends là, dans le phénomène érotique, je le reprends dans ce livre aussi, sur le fait... dans le livre sur Saint-Augustin aussi, sur le fait que les deux, l'amour de l'éros par l'éros et l'amour par l'agapé, ne doivent pas être dissociés. J'avais de la chance, c'est une thèse pas majoritaire, mais enfin, le cardinal Ratzinger, enfin le Benoît XVI, a fait une encyclique pour dire ça, donc je l'ai découvert, heureusement.
Mais le Christ est de quel côté ?
Pardon ? Les deux. C'est-à-dire que... mais il y a des pères de l'Église qui emploient les deux. Les deux. Saint Augustin dit que il faut garder les deux ensemble. C'est-à-dire que l'amour est un. Il est univoque. D'ailleurs, s'il n'était pas univoque, on ne voit pas comment, en aimant Dieu, nous pourrions être transformés en Dieu. S'il y a deux amours, nous, c'est plus l'éros que l'agapé, on n'est pas divinisé par l'amour. Donc, il faut qu'il y ait qu'un seul amour. Et donc, pour que ce soit le passage de Dieu à nous réciproquement. Donc, non, c'est-à-dire que l'éros, c'est la tension par le manque, et l'agapé, c'est la tension par le don, la générosité. Mais l'amour érotique comprend les deux. Je ne vais pas faire un dessin
non.
À tout le monde comprend ce que ça veut dire.
On a compris.
Bon. Donc l'idée que ce soit l'un ou l'autre n'a absolument aucun sens. Et donc ça c'est un point. Alors cette distinction.
On a compris, mais ce qui est étonnant, c'est de voir chez vous, qui êtes donc un grand philosophe chrétien, comment une conception de l'érotisme qui peut s'appliquer au Christ se déploie.
Ben, évidemment. Quand le Christ dit « m'aimes-tu » à Pierre, c'est pas bon. Et quand son rapport aux femmes, évidemment, ils ont un petit sentiment, c'est l'évidence. Mais c'est la base du reste. Donc, d'ailleurs, de toute façon, cette opposition de l'éros et agapé n'est pas biblique. Monsieur Romer va peut-être me contredire, mais je crois qu'elle n'est pas biblique. Elle est inventée.
Thomas Romer,
des années 30, par un théologien suédois luthérien.
Mais alors, justement, Thomas Romer, lorsque l'on prend ce personnage du Christ, il a quelque chose de singulier par rapport aux autres rabbins, c'est le célibat. Alors, pas tous les juifs de l'époque, puisque donc là aussi, il faut s'imaginer le judaïsme comme étant très mosaïque à l'époque, c'est le cas de le dire. Mais comment le comment expliquer le célibat du Christ ?
Ben, je pense là, c'est peut-être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce courant qu'on appelle, suite à Flavius Joseph, les Esséniens, où il y avait apparemment des gens qui pensaient, un peu comme Paul, qui était célibataire aussi, que les temps des fins de la fin sont venus. Et donc, comme le dit aussi Paul, vaut mieux pas se marier pour, en effet, être prêt à accueillir ce nouveau monde. Mais en même temps, on voit que c'était pas quelque chose qui était généralisé, parce qu'on apprend que l'apôtre Pierre avait une belle-mère que Jésus d'ailleurs a guérie d'une maladie. Donc je pense que ce célibat de Jésus s'inscrit un peu de cette attente eschatologique ou apocalyptique.
Eschatologique de la fin des temps. Mais alors Jean-Luc Marion, ce qu'il fonde, c'est une religion qui entretient un rapport complexe avec le renoncement à la chair.
D'abord, ils fondent pas une religion, comme on l'a rappelé. Non, mais c'est très important. Ils fondent pas une religion.
Peut-être à son corps défendant,
on peut même dire la force du christianisme, c'est qu'il y a plusieurs religions dedans. Je veux dire plusieurs spiritualités. Vous voyez, souvent on dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes catholique? Vous sentez pas un peu à l'étroit? Je réponds, comment voulez-vous vous sentir à l'étroit dans une église où il y a à la fois des jésuites et des franciscains? Des dominicains et des bénédictins. On peut dire tout et n'importe quoi, pourvu qu'on croit le credo. Mais c'est un endroit libre, donc il n'y a pas de religion, en un sens. Hein, il n'a pas fondé une religion. Alors d'autre part, la question de la chair, ça, je sais bien l'origine historique de l'idée que l'Église s'oppose à la chair. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, parce que tout le premier débat théologique qu'il y a eu, c'est justement pour savoir si le Christ avait vraiment une chair. Et Tertullien a été très ferme sur ce sujet-là. Mais saint Augustin aussi. On dit que saint Augustin est contre la chair, c'est idiot. Enfin, il suffit de le lire. La théologie du mariage de saint Augustin, il savait de quoi il parlait. Bon, il y a une pensée de la chair beaucoup plus forte chez les médiévaux ou chez les auteurs chrétiens de l'époque classique qu'au XIXe siècle. L'époque moderne est une époque où la chair est considérée comme matérielle. Bon, la chair n'est pas matérielle, elle est toujours spirituelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut être un des noms du péché chez Paul, parce qu'elle est spirituelle. La chair est toujours spirituelle. Nous, notre drame, et qu'on paie d'ailleurs par le fait que nous n'avons plus d'érotisme sérieux, nous n'en avons plus que de la pornographie, et qui de l'érotisme pas sérieux en images, c'est atroce. Comme me disait un grand théologien ami, ancien, la pornographie, c'est de s'imaginer qu'on peut se rassasier en lisant des livres de cuisine. C'est exactement ça. Donc, la chair est toujours spirituelle. Et le christianisme est un des endroits, avec la littérature, où la chair reste spirituelle. Moi, j'ai jamais compris comment on pouvait dire que l'Église était contre la chair. Mauvais souvenir de catéchisme, peut-être. Faut pardonner aux gens qui font mal le catéchisme. Mais... soyons sérieux.
Un mot de conclusion, Thomas Romer. Le sujet est vaste, mais lorsque l'on voit...
Il y a beaucoup de choses à dire sur la chair, encore même.
Non, mais sans reprendre la totalité de ce qui est dit, on voit, comme l'a dit Jean-Luc Marion, ça n'est pas le fondateur d'une religion, puisque, encore une fois, la postérité du Christ est indépendante pratiquement de ses volontés. On voit néanmoins que la personne se prolonge, et encore aujourd'hui, elle est bien évidemment célébrée. Peut-être un mot de conclusion là-dessus.
Sur
la manière dont le visage, la personne du Christ a évolué au fil des siècles.
Mais je pense que on peut reprendre ce que vient de dire Jean-Luc Marion. Il y a une telle diversité dans les textes bibliques déjà sur Jésus, qui vont se refléter après dans les différents courants du christianisme, qui de nouveau va ensuite se diversifier. Le protestantisme, est-ce que c'est une autre religion ou est-ce que c'est une certaine radicalisation de certaines idées qui existaient peut-être déjà dans certains courants de l'Église catholique? Donc je pense, c'est vrai que on a dans le christianisme, et pas seulement dans le christianisme, on pourrait dire exactement la même chose sur le judaïsme et sur l'islam, il n'y a pas une religion unifiée, il y a une grande diversité d'opinions à partir en fait d'un fondement qui est cette affirmation qui est paradoxale de la mort, de la résurrection.
Merci en tout cas à tous les deux, c'était passionnant. On pourrait en discuter évidemment des jours, et d'ailleurs beaucoup de gens font cela, discuter de la religion du matin au soir. Jean-Luc Marion, d'ailleurs, La Révélation, contribution à une histoire critique et à un concept phénoménal de révélation, c'est aux éditions Grasset. Et puis Thomas Romer, on vous doit beaucoup de livres sur l'exégèse biblique, hein, que sais-je, sur l'Ancien Testament, et puis votre dernier livre, Dieu de la Bible, Dieu du Coran, coécrit avec Jacqueline Chabi. Vous êtes aussi administrateur du Collège de France, et je le dis parce que chaque matin à 5h, il faut être matinal, c'est important, et à 5h, on peut suivre les cours du Collège de France sur France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec une invitation au voyage de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le prix Goncourt de cette année, Hervé Letellier, 8h52 sur France Culture.